les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Pierre Berlioz, professeur de droit, nous parle de la propriété. Quatrième épisode, les objets de propriété.
Bonjour chers auditeurs, on se retrouve aujourd'hui avec une question cruciale qui est celle des objets de propriété. De quoi peut-on être propriétaire ? La propriété, c'est un droit qui porte sur les choses. Mais qu'est-ce qu'une chose ? En droit, c'est tout ce qui n'est pas constitutif de la personne. Autrement dit, c'est une catégorie ouverte, à l'inverse de celle des personnes, c'est une catégorie résiduelle qui inclut tout ce qui ne peut pas être qualifié de personne. Définie comme ça, la chose paraît relativement simple à identifier. Et pourtant, ça n'est pas toujours le cas. D'abord, la frontière avec la personne n'est pas vraiment évidente à tracer. J'en prendrai deux exemples très différents, l'embryon et les animaux. Ensuite, l'apparition des choses incorporelles a profondément renouvelé la réflexion sur ce qui peut être approprié. Et là encore, un exemple, celui des données, est assez parlant, mais pour l'instant, commençons par l'embryon.
Les embryons humains ne peuvent pas être réduits à des possessions. C'est en substance l'avis rendu ce jeudi par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. Les juges ont ainsi rejeté la requête d'Adelina Parillo. Cette Italienne avait congelé en 2002 des embryons obtenus dans le cadre d'une fécondation in vitro avec son compagnon. Son mari étant décédé l'année suivante, elle souhaitait donner ses embryons à la recherche. Or, en Italie, une loi interdit depuis 2004 la destruction des embryons humains conçus in vitro, considérés comme des sujets pour garantir leur droit à la vie. Les juges de la Cour, par 16 voix contre une, ont estimé que la loi italienne ne violait pas le droit à la vie privée et familiale, ni le droit à la propriété, dans la mesure où ces embryons ne pouvaient pas être considérés comme une possession de la mère.
Pas de propriété sur les embryons, donc. Donc ça signifie a priori que l'embryon est une personne. Pourtant, c'est loin d'être évident. La personnalité, c'est une qualité juridique, dont on investit certains êtres, les êtres humains essentiellement. Elle confère à ces êtres des libertés et des droits, ainsi que des devoirs et des obligations. La personne, c'est un être qui jouit de la personnalité juridique. Or, le point de départ traditionnel de la personnalité, c'est la naissance. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de ce moment que l'être a une existence autonome. Il respire de manière autonome, il vit de manière autonome. Et donc, on lui confère la personnalité à partir de ce moment-là. Or, l'embryon n'est pas né, par définition. Donc, il n'est pas juridiquement doté de la personnalité. Donc, juridiquement, a priori, ça n'est pas une personne. Ce qui voudrait dire que c'est une chose. Et si c'est une chose, juridiquement, on devrait considérer que c'est un objet de propriété. Néanmoins, l'embryon, si c'est une chose, c'est une chose qui a une particularité qui est tout à fait notable, qui est d'avoir le potentiel que réalise la gestation, potentiel de devenir une personne. Ce qui a nécessairement des conséquences sur son régime. Ce qui fait qu'on peut les considérer de deux manières. Soit considérer que ce sont des choses, mais des choses qui sont des personnes potentielles. Et à partir de là, on leur fait bénéficier d'un régime protecteur, mais en maintenant la qualification de choses, et donc d'objets de propriété, avec des limitations drastiques du pouvoir du propriétaire. C'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est de les qualifier de personnes par anticipation. Ce qui associe à la protection juridique une protection plus symbolique. Ce ne sont pas encore des personnes, mais ce ne sont pas vraiment des choses non plus, parce qu'on anticipe sur le fait que ce seront des personnes après la naissance. Et c'est implicitement le choix qu'a fait la Cour européenne des droits de l'homme, notamment en raison de cette importance symbolique de l'affirmation que ce ne sont pas vraiment des choses pour leur protection. Pour l'animal, c'est le choix inverse qu'on a fait, même si, on va le voir, le législateur l'a fait de façon assez maladroite, et même si, dans l'histoire, les animaux ont pu, davantage qu'aujourd'hui, être traités comme des personnes.
Les fameux procès faits aux animaux, les plus anciennement documentés, c'est vers le milieu du XIIIe siècle, c'est-à-dire à un moment où l'Église elle-même devient un immense tribunal, Et ça va durer jusqu'en plein XVIIe siècle. Alors, nous ricanons parfois de ces croyances et de ces animaux conduits devant les tribunaux, mais en fait, ça implique une proximité entre l'homme et l'animal beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Hein. L'idée que, non pas tous les animaux, mais certains d'entre eux sont responsables de leurs actes, peuvent comprendre ce qu'est le bien et le mal, peuvent se corriger. Ce sont des idées extrêmement modernes, au fond, dans un autre contexte, bien sûr. Et alors, pour moi, qui suis historien des animaux, le plus fascinant, c'est que 9 fois sur 10, les animaux concernés, conduits au tribunal, sont des cochons, c'est-à-dire l'animal qui, pour les sociétés anciennes, est pensé comme le plus proche de l'être humain. Et pour les sociétés d'aujourd'hui, du moins du point de vue biologique et physiologique, c'est exactement la même chose.
L'historien Michel Pastoureau vient de nous l'indiquer. Il y a une époque où il y avait des procès des animaux, où les animaux étaient responsables de leurs actes, ce qui les apparentait en partie à la personne. Aujourd'hui, les animaux ne sont pas des personnes. Depuis le 28 janvier 2015, ils sont qualifiés par le Code civil d'êtres vivants doués de sensibilité. Mais le Code civil ajoute, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. C'est-à-dire qu'en fait, on a changé la loi pour ne rien changer. Ce qui paraît un peu bizarre, même problématique, dans la mesure où le législateur crée une catégorie juridique nouvelle qui, apparemment, rompt cette opposition séculaire entre les personnes et les choses, mais en même temps, on pratiquait déjà le « en même temps » à l'époque, en même temps, il s'attache à lui ôter toute réalité juridique. Les animaux restent ce qu'ils sont. Ce sont des choses. Mais ce ne sont pas des choses comme les autres. Ce sont des êtres vivants sensibles, et donc qui vont avoir un régime particulier, un régime de protection, mais un régime de protection qui n'affecte pas leurs caractéristiques d'objets de propriété, qui au contraire, d'ailleurs, en est plutôt le contre-équilibre. C'est parce que l'animal est objet de propriété qu'on va prévoir ce régime de protection pour contrebalancer les pouvoirs du propriétaire et pour les limiter de façon à protéger l'animal. Que ça soit les animaux ou l'embryon, la difficulté, c'est la proximité avec la personne. Pour les choses incorporelles, la difficulté de qualification est différente. C'est l'appréhension de ces choses qui pose problème. Elles n'ont pas de matérialité, et donc on peut, de prime abord, avoir l'impression qu'elle ne se prête pas à une appropriation parce que la propriété, c'est la mainmise d'une personne sur une chose. Or, qu'est-ce que la mainmise d'une personne sur une chose incorporelle ? En matière corporelle, c'est évident. Ça se voit, ça se sent, c'est tangible. En matière incorporelle, ça ne l'est pas. Une idée, une information, une donnée ne donne pas prise à une appréhension physique. Mais pour autant, est-ce que toute maîtrise d'une chose incorporelle et est-ce que toute propriété d'une chose incorporelle est exclu. Voyons ce qu'en dit Alain Bensoussan, célèbre avocat, spécialiste des nouvelles technologies et du droit des données.
Les données personnelles, ou les données à caractère personnel, mais c'est plus facile de parler de données personnelles, ça revient au même. Ce sont des données qui sont relatives à une personne physique, et non pas une personne morale. Alors, on parle de données personnelles, on ne parle pas des données d'une entreprise, d'une association, d'un organisme. C'est uniquement une personne physique. Et c'est l'ensemble des données qui permet d'avoir, quelque part, les éléments de son nom, prénom, adresse, mais aussi téléphone, adresse IP, mais encore ses données biométriques, génétiques, son comportement et, de manière générale, l'ensemble des traces informationnelles qu'il peut laisser, directement ou indirectement, sur l'Internet. Donc, une donnée personnelle, c'est une donnée qui se rattache à une personne physique et c'est tout type de données, de son domicile à la biométrie, de la génétique à son numéro de téléphone, de son adresse IP à la liste de ses achats. Alors, qui est propriétaire des données, même si je ne suis pas un produit ? D'abord, je crois que c'est un droit naturel. Chacun d'entre nous dit c'est mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone, mes données. Mais il n'y a pas de propriété sur les données. Il n'y a dans aucun pays un droit qui dit vous êtes propriétaire des données. Et le premier combat que moi je mène aujourd'hui, c'est pour la reconnaissance de la propriété de chacun d'entre nous sur ces données. Et là, ça ne fait pas de moi un produit. Et l'idée, c'est communiquer ces données dans un cadre qui reste maîtrisé et maîtrisable.
Il n'y a pas de propriété des données, mais il faudrait la reconnaître. Je ne suis pas vraiment en accord avec Alain Bouensoussan sur ce point, parce que, à mon sens, il y a déjà une propriété des données. Il y a une propriété des données parce que la maîtrise que constitue la propriété, elle existe. Elle n'est pas corporelle, mais elle est par l'esprit. Ce qu'on a dans sa tête, ce qu'on sait, les informations qu'on a, on les maîtrise, mais par l'esprit, comme on peut maîtriser une chose physiquement. Un exemple. Ce matin, en ouvrant la fenêtre, j'ai vu qu'il faisait beau et qu'il faisait relativement chaud. J'ai utilisé cette information pour décider de la manière dont je m'habille. C'est la même chose que quand j'utilise une chaise. Simplement, c'est un usage intellectuel, alors que l'usage d'une chaise est un usage physique. L'usage d'une chose corporelle est matériel, l'usage d'une chose incorporelle est immatériel. Donc, il y a un pouvoir de fait sur les choses. Or, la propriété, c'est quoi? C'est la consécration de ce pouvoir de fait. Donc, à partir du moment où le pouvoir de fait existe, la propriété qui consacre tous les pouvoirs de fait qui existent sur les choses est reconnue naturellement par l'article 544 du Code civil, qui n'a pas de limitation, qui ne pose aucune limitation. Donc cette propriété, aujourd'hui, à mon sens, elle existe déjà. Mais il faut savoir ce que c'est la propriété d'une chose intellectuelle, d'une chose incorporelle. La propriété, je vous l'ai dit aussi, c'est l'exclusivité d'une personne sur une chose. C'est donc, en fait, pouvoir interdire l'accès aux autres. Interdire l'accès aux autres, en matière incorporelle, c'est quoi ? C'est garder le secret, ou garder la confidentialité en tout cas, limiter les personnes pouvant y avoir accès. La propriété, c'est ça qu'elle protège, c'est le secret. Mais une fois que la chose n'est plus secrète, qu'elle a été communiquée, alors je perds la maîtrise. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est qu'il y a reproduction de la chose. La chose est reproductible. Quand je la communique, le terme est bien là, communiquer, commun. Quand je la communique, je la reproduis, et j'en transfère un exemplaire à une autre personne. Et donc, en fait, on est, à ce moment-là, deux à avoir des choses identiques. Moi, j'ai la mienne, lui, il a la sienne. Moi, je suis propriétaire de la mienne, lui est propriétaire de la sienne. Propriétaire de la mienne, je peux tout faire de la mienne et interdire aux autres d'y accéder, mais je ne peux pas lui interdire quoi que ce soit à propos de sa propre chose. Pour pouvoir le faire, il faut qu'on me donne un droit particulier sur sa chose. Et c'est par exemple ce que fait le RGPD en matière de données personnelles. L'utilisation d'une donnée qui me concerne, l'utilisation d'une information qui me concerne, peut porter atteinte à ma vie privée, peut porter atteinte à ma personnalité, et c'est pour ça que le règlement me confère la possibilité de contrôler l'usage qui est fait des données qui m'identifient, des données qui me concernent, et donc qui me donne un droit sur l'usage que ceux à qui j'ai transféré ces données peuvent faire de ces données dans la mesure où elles m'identifient. Puisque la limite de ce pouvoir, c'est l'anonymat. Dès lors que la donnée est anonymisée, je ne peux plus rien faire. Parce qu'elle ne me concerne plus, elle ne m'identifie plus. Donc à ce moment-là, je n'ai pas de droit à l'égard de l'usage que une personne fait de sa propre chose. Donc là, on n'est pas en matière de propriété. Ça n'est plus une propriété, ça n'est plus une conséquence de la propriété. Le RGPD ne donne pas un droit de propriété, mais il donne un droit qui me permet de contrôler ce que fait une autre personne de cette donnée, parce que cette donnée m'identifie. Mais ces données, j'en suis propriétaire, simplement je ne suis propriétaire que de celles que j'ai conservées, pas de celles que j'ai transmises. La propriété, c'est un droit sur sa propre chose, ça n'est pas un droit sur la chose d'autrui. Et c'est bien parce que j'ai transmis la chose, parce qu'une autre personne a acquis une chose que je ne peux plus rien en faire parce que je la lui ai transmise. Alors comment est-ce que je transmets la chose? C'est ce qu'on verra la semaine prochaine.
Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.